c'est pas envie de lui. Bon, là, j'ai un peu l'émotion, là, je m'attendais pas à ce qu'il mette un peu les boules. Merci, vraiment, merci à votre équipe pastorale, merci Michel pour l'invitation et la possibilité d'être là avec vous. Je pense que l'important, c'est de vivre en Jésus-Christ. Quand on considère ce que Dieu a fait, je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à l'implication de la croix, ce que ça implique pour nous aujourd'hui. Je pense que c'est une réflexion qu'il faut avoir, nous, à une petite mesure qui était très personnelle. J'étais avec mon grand-père qui était pasteur, et on était tous les deux, on avait un moment vraiment entre nous. Et mon grand-père me dit, tu me fais un petit café, tu viens là. Alors, je fais le café, mon grand-père se met dans son fauteuil, puis je le vois qui part un peu les yeux en l'air. Bon, moi je fais mon café, je le regarde, puis ça va, papy? Pas de réponse. Et je suis un peu interpellé, alors bon, je continue, je le revois, il ne bouge pas, il dit ça va, papy? Toujours pas de réponse. Et je m'approche de lui. Et cet homme qui a prêché l'évangile pendant plus de 70 ans, il a une larme sur le côté, il commence à sentir une émotion. Et puis il dit ça va, papy? Puis il revient un peu comme ça, il dit mais ça va, papy? T'étais où là? J'étais à la croix. Et après 70 ans de ministère, de service, après 70 ans de prédication, il me ramène à la croix et il me rappelle l'importance de comprendre que Jésus a fait pour nous, du prix qu'il a payé, de ce que Jésus a fait pour changer nos vies, pour ramener dans nos maisons la paix, la joie, le bonheur, ramener en nous peut-être une espérance, ramener en nous le goût de la vie, ramener en nous quelque chose qui nous projette en avant. De voir que tout ce qui peut être dans nos vies ont été des fois, on ne peut dire même pas glorieux, mais des fois, quand on creuse un peu chez nous, on va dire même moche. Et dans toutes ces choses, on voit que Jésus est capable de changer le mal en bien, de ramener des choses. Et quand on considère le sacrifice de Jésus à la croix, je crois qu'il n'y a qu'une seule réponse que la Bible a dit, le rendre tout raisonnable. Le Fils de l'Esprit qui confesse le nom de Jésus, qui dit voilà, tout ton sauveur a fait pour ta vie. Vous êtes OK au Père. Et donc, je crois qu'aujourd'hui encore, quand on considère ce que Jésus a fait pour nous, en tout ce que Dieu veut, je pense que ce qui est digne, si on peut avoir une dignité, c'est de vivre d'une manière qui soit honorable et qui montre et qui témoigne par nos vies, mais pas seulement avec nos bouches quand on chante, mais aussi par nos vies. De dire ce que Jésus a fait, c'est plus grand que tout, et il y a un honneur et une dignité, et voilà comment on doit vivre. Amen. Si vous avez vos livres, je vous propose de regarder un texte dans le Deutéronome ce matin, Deutéronome chapitre 14. Pardon, Nombre, excusez-moi, Nombre chapitre 14. Nombre 14. Et je vais un peu relire, j'aime beaucoup les mots de la Bible, j'aime beaucoup les petites phrases. Il y a des mots sur lesquels on passe très très vite, et puis je pense qu'on lit tellement la Bible de manière rapide. On passe à côté de fois ces points qui sont tellement importants. Nombre 14, je vais dire à partir du verset 19. Une conversation avec Dieu qui est en train de se passer. Et voici ce que la Bible dit, c'est une conversation entre Moïse et l'Éternel. Et voilà, verset 19. Pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde. Que tu as pardonné. Comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé. Mais je suis vivant. Et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire, les prodiges que j'ai fait en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté de la vie sous main et qui n'ont pas écouté ma voix, tous ceux-là ne verront pas le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et par tout mon serviteur, Caleb a été animé d'un autre esprit, qui n'a pleinement suivi ma voix. Je serai entré dans le pays où il était né et ses descendants posséderont. Les Amalécites, les Canaanéens habitent la vallée, d'où retournez-vous, partez dans le désert, dans la direction de la mer Rouge. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit : jusqu'à quand laisserai cette méchante assemblée murmurer contre moi ? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Ils murmuraient contre moi, dis-leur, Je suis vivant, dit l'Éternel, et je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans le désert, vous tous, au point d'appel dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, que vous murmurez contre moi. Vous n'entrerez pas dans le pays, j'ai juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephunné, Josué, fils de Nun. Amen. On est devant un texte qui, voilà, toujours m'interpelle. J'aime bien gratter les mots, j'aime bien regarder les petites expressions. Et j'aime bien imaginer, ou j'aime bien dans ma tête et puis dans mon cœur, me projeter dans les histoires, parce que ce qui leur est arrivé pour nous servir d'exemple. Toutes ces choses sont arrivées pour nous enseigner, dit le Seigneur. Tout ce que la Bible dit, Dieu dit, ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, puis que vous croyiez, vous ayez la vie éternelle en son nom. Et il y a des choses qu'il faut comprendre. On est sur un terrain où l'Éternel vient d'accorder une délivrance pour les sorties d'Égypte, un territoire tellement difficile d'esclavage, de souffrance et de cris. On est battu, on est humilié, on est détruit, les familles sont détruites. On sent qu'il y a une oppression qui est là sur l'esclavage de l'enfance le plus difficile. Et lorsque Dieu entend les cris de son peuple, il envoie un libérateur, c'est Moïse qui vient, il lui sort d'Égypte. Il y a eu des prodiges, il y a eu des miracles, toutes ces plaies que Dieu a envoyées. À chaque plaie, Dieu va détruire une divinité, va démontrer que sa peur est plus puissante, elle est supérieure à toutes les idoles, tous les dieux d'Égypte qui sont au nom, qui sont là, l'humil, tous ceux qui sont là dans la vie, tout ça. Dieu va bannir tout ça, il va briser toutes ses autorités, il faut sortir le peuple à bras étendus, avec force et puissance. La Bible dit qu'entre la sortie d'Égypte et le truc Canaan, il y a 13 jours de marche. Les théologiens disent qu'en gros, il y a entre 3 semaines et 5 semaines de marche véritablement pour tout le peuple pour sortir. On se dit qu'il y a un truc de dingue. On est à 5 semaines de rentrer dans le pays promis de Canaan. Et puis pendant ce temps-là, les conversations arrivent. Et puis pendant ce temps-là, on se compte 655 000 hommes. Qu'est-ce qui va se passer en réalité? Ils vont tourner 38 ans dans le désert. Et là, il y a un texte qui dit clairement, ce peuple, il m'a défié, ils ont été rebelles, ils n'ont pas voulu écouter, ils m'ont arrêté, ils ont vu tous les produits, tous les miracles, ils ont tout vu, j'étais devant eux, il y a la gloire de l'Éternel qui sont manifestés, tous, ils ont vu quelque chose. Et vous savez, pour sortir d'Égypte et garder la mentalité d'Égypte, c'est toute la difficulté dans le monde chrétien aujourd'hui, de vivre la conversion, parce que le salut, c'est ça, croire au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. En réalité, ce n'est pas compliqué du tout. Tout, la même proposition est faite à tout le monde, mais quelle différence entre se convertir et marcher pour Jésus-Christ? Parce que pour marcher pour Dieu, ça nécessite apprendre l'obéissance, ça nécessite de la discipline, ça nécessite la foi, ça nécessite du courage, ça nécessite de mettre en pratique, ça nécessite d'abandonner une mentalité d'esclave pour vivre la liberté. Je fais une petite parenthèse. Il faut beaucoup plus de courage pour vivre la liberté que pour vivre l'esclavage. C'est beaucoup plus simple de vivre dans la loi que de vivre affranchi avec la liberté. Ça demande beaucoup plus de responsabilité de diriger sa vie en étant digne devant Dieu que de baisser la tête et puis de faire tout. T'as le droit, t'as pas le droit, tu peux pas, t'es comme si t'es comme ça, tout est plié d'avance. On râle dans la loi parce qu'on n'est pas content, on veut de la liberté, mais c'est beaucoup plus dur de vivre dans la liberté que de vivre dans la loi. C'est beaucoup plus dur de vivre en Christ que de mourir en Christ. Hein. Ben vous réfléchirez à ça, je ne vais pas vous le démontrer ce matin. Mais c'est beaucoup plus contraignant. C'est beaucoup plus demande de notre part, beaucoup plus d'engagement et d'élan de vivre en Christ. Et c'est tout ce peuple qui est ici. Parce qu'il m'interpelle, c'est 655 000 hommes, et la Bible dit, vous n'y rentrerez pas, et lorsque Dieu parle au peuple, vous ne rentrerez pas, dis-leur, ils ne rentreront pas, vous ne rentreront pas non plus, le peuple ne rentrera pas non plus, deux exceptions, Josué et Caleb. Sur une génération complète, deux hommes entreront, et une génération mourra dans le désert. Quelle différence il y a? Et on l'a vu tout de suite. Caleb, le serviteur, a été animé par un autre esprit. Une petite phrase qui passe comme ça, hein, presque inaperçue. Je 12 000 et 712 000 fils de Moïse et des jeunes fils de Jésus et Caleb. Eux rentreront. Et pour tous les autres, vous ne rentrerez pas. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas animé, dit la Nathalie. Alors moi, j'ai dû rater ça, mais je suis sur un truc de dingue. Il y a un état d'esprit, il y a un état d'esprit qui plaît à Dieu. Il y a une capacité, il y a une mentalité que le monde état d'esprit. On peut dire quand même, Dieu voit en Caleb un autre état d'esprit, une autre manière de faire, une autre motivation. Je me suis étonné parce que quand on regarde un peu le texte, quand vous prenez Josué et Caleb, alors qu'eux ont envie de rentrer dans le pays promis, Josué et Caleb, ça fait partie des deux des 12 espions qui sont partis juste explorer le territoire. Et Dieu dit, c'est un bon pays qui n'a aucune réelle. Alors, mais je sélectionne 10 bûches qui représentent les 12 tribus. Allez visiter le pays, dites-nous ce qu'il en est, il prend une aile. Oh, Moïse! Si tu savais, le pays, il n'est pas bon, il est super bon, il y a des grappes de raisin pour deux hommes pour le porter. Il y a le lait, le miel. C'est miraculeux, c'est merveilleux, c'est grand, c'est beau. Waouh! Et puis sur les 12, on a 10 qui continuent. Ouais, mais devant nous, il y a des géants, là, voilà. On est à nos vies, alors nous, petits comme des sauterelles, nous dévorons les habitants du pays, on va se faire flinguer, c'est pas possible, on ne rentre pas. Les deux hommes se lèvent, Josué et Caleb, s'opposent à ce qui vient d'être dit, puis ils disent c'est pas possible, c'est un bon pays, on va le pire, on part au nom du pays. Imaginez qu'il a fallu 10 hommes pour décourager une assemblée complète. Il a fallu 10 hommes pour décourager 655 000 hommes. Il a fallu 10 hommes parlent pour qu'une génération meure dans le désert. Vous êtes volontaire ou pas, non? Des fois, on se dit, non, Seigneur, je ne vais pas faire partie de ceux qui meurent dans le désert, je vais faire partie de ceux qui... Qui veut faire partie de ceux qui rentrent en Canaan? On dit, vous êtes un peu. Amen. Il faut trouver un jeune joueur qui allait de lui-même d'un autre esprit qui lui montre comment il faut faire. Et lui, ils sont là, ils parlent. Et Caleb est nommé d'un autre esprit. Moi, je suis étonné de voir cette phrase arriver comme ça. Et c'est comme si Dieu, vous savez, Dieu ne regarde pas l'apparence, hein, vous savez ça, non? Il regarde au cœur, aux motivations, à l'état d'esprit, il regarde à ce qui est le plus profond de vous-même. Je pense que c'est le plus difficile aujourd'hui dans la relation humaine, je vous dis, en ce moment, je suis interpellé, ça, c'est le caractère. Il y a des gens, ils sont à côté de vous, vous êtes dans leur entourage, ils vous font du bien. C'est joyeux, ils vous interpellent, ils vous challengent, ils vous mettent en avant, ils vous conseillent, ils vous font du bien. Et vous avez des gens, ils sont toxiques, hein. Je ne sais pas si vous savez ça, d'accord. Voilà, vous êtes dans l'environnement, je ne vous dis pas, tout est mauvais, ça critique, tout est mauvais, personne n'est bon, sauf que, encore, faudrait-il le prouver, mais... Il y a des gens, à la fin, vous savez que vous auriez dû les éviter dès le début, hein. Et ils vous emmènent comme ça, et puis au bout d'un moment, ils vous pompent, ils vous aspirent, c'est des vrais sensus, ils vous pompent tous, ils vous prennent, ils vous laissent rien, vous êtes sec, vous êtes vide, ils ne vous tirent jamais vers le haut, vous faites tout, il n'y a jamais rien de bien, au bout d'un moment, il y a des gens, il faut les éviter. En fait, comme vous voulez, hein. Mais Josué et Caleb, ils vous inspirent. Hein. Animé dans notre esprit, moi, je suis super interpellé par ce que l'on appelle Caleb, alors je. Pas si vous êtes comme moi, comment, qu'est-ce que ça veut dire le nom Caleb? Alors ça, la première réflexion qui montre que les chiens, c'est pareil, on a dit ça. Et puis, ça me fait que pas un petit perso, parce qu'il n'y a pas de typologie, en fait, dans la Bible. Vous avez comme ça des noms, des identités qui se reproduisent, et vous avez un vrai enseignement. Le pain, c'est, ça traverse toute la Bible. L'huile, ça traverse toute la Bible. Le vin, c'est... Et vous savez que derrière, à chaque fois que l'huile et le vin sont là, vous avez une alliance avec Dieu, vous sentez qu'il y a du plus. Mais le chien, à part Caleb, on n'en voit nulle part. Hein. Alors oui, vous pouvez trouver, quand vous êtes plus jeune, vous pouvez trouver dans les prédications, la fidélité, les gentils, enfin bon. Mais en faisant avec le rabbin juif, j'ai trouvé une autre explication du nom Caleb. Et en fait, le nom Caleb, c'est une autre racine qui dit orienté par son cœur. Et d'un côté, il me dit ça colle beaucoup plus au personnage. Cet homme Caleb, c'est un homme qui a une noblesse de cœur, qui est orienté par son cœur, qui se laisse tout ses gestes, comme il me dit, veille sur ton cœur, plus que toute autre chose, parce que de lui vient les sources de la vie. Et je me dis, par rapport à Caleb, ça colle parce que. Un homme qui a une telle noblesse, qui a une telle foi, Ah ouais, c'est étonnant, juste quelques versets avant ce qu'on a lu là, Moïse, le peuple veut le lapider. Et Moïse s'élève parce qu'il a compris que le problème, c'est la peur du peuple. Et Moïse s'élève, il dit, taisez-vous, vous ne savez pas comment vous parler. Ne faites pas ça surtout. Et on sent qu'il y a donc à l'aide une loyauté qui est là, une fidélité qui est terrible. Alors je vais faire le lien entre Josué et Caleb parce que souvent, les affectifs, tous les deux, je me permets de prendre une phrase de Josué. Moi et ma maison, c'est pas seulement moi, je veux me sentir bien parce que dans le monde d'aujourd'hui, c'est on est dans la famille, on n'est pas une histoire personnelle, c'est moi d'abord puis les autres après. Même dans les relations de couple, des fois c'est mon temps à moi, c'est ma soirée à moi. Josué dit non, c'est pas comme ça que ça se passera dans ma maison. Moi, j'ai dit ton avis, j'ai compris l'importance de Dieu, mais moi, et toute ma maison, j'ai une vision pour chacun, pour mon épouse, pour mes enfants. Vraiment nous entraîner avec une vision, je veux une chose. Moi, dans la maison, nous servirons l'éternel. Je suis persuadé que Caleb est dans la même mentalité. Je le crois parce que non seulement cet homme qui est un homme de foi remarquable, c'est un homme de Dieu qui prend du temps avec le Seigneur, qui est renouvelé dans son cœur. J'imagine, en tout cas, moi qui étais responsable d'entreprise, quand on faisait du recrutement, ce qui m'intéressait, c'est. Pour trouver des gens qui n'ont pas qu'à avoir un diplôme, mais qui avaient une mentalité, qui avaient un critère de vie qui était différent. Excusez-moi si je le dis comme ça, mais aujourd'hui c'est un peu compliqué. J'entends des frères et des sœurs qui ont des entreprises, qui ont des jeunes, ils disent oh là là, le jeune qui est là. Alors au niveau courage, ce n'est pas le tout, c'est pas ça. Il y a une culture du travail qu'on a plus de la même manière. Hein. On donne rendez-vous à on demande un rendez-vous à un certain heure et puis voilà, c'est du mal à se lever et puis on compte les heures. Et maintenant, on demande, bah, le gars, ça ne va pas le faire. Il faut aussi savoir si tu as envie de gagner ta compte ou pas, quelque part. J'ai un petit anecdote comme ça, c'est une soeur en train de l'église, elle vient voir, elle me dit, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, Patrick, si ça va, il ne veut pas bien, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je suis convoqué à un entretien préalable de licenciement. Voyons, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, oh, ben l'autre jour, j'étais en train de prier le matin. Et puis, comme j'étais en prière, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, est-ce que tu veux vraiment que j'aille au travail? Ah, mais ne blaguez pas, parce que c'est une véritable anecdote. Et donc, comme Dieu lui a dit de se lever pour aller au boulot, il est resté, il est arrivé en retard, et puis c'est Dieu qui est bloqué, et puis claque. Alors, je lui ai dit, tu sais, le Dieu qui a dit qu'il gagnera ton pain la sueur de ton front, on ne va pas faire sonner ton année et dire d'y aller. Mais il faut être clair, à un moment donné, il faut être un peu logique et puis connaître un homme de courage. Pour les jeunes, pour les moins jeunes, les jeunes femmes, trouvez-vous un homme de courage. Parce qu'un gars qui passe son temps avec ses petits plaisirs, à lui, tout le temps, avec tout l'argent qu'il met dans ses trucs, c'est tout le temps qu'il ne s'occupera pas de vous et de votre maison. Hein. Mais Caleb et Josué, on les met d'un autre esprit. Et ça fait toute la différence, parler de Caleb. Caleb, c'est un gars qui a mis d'un autre esprit quand il parle à sa fille et il a tellement vu toutes choses. Quand il parle et qu'il pense à son fils, il dit, est-ce qu'il y a des hommes qui ont des filles dans la salle? Dites-moi, un peu, ouais. Moi, ma fille a que 10 ans, mais une de mes trouilles aujourd'hui, c'est de la voir partir avec un bras cassé qui ne va pas la respecter. Moi, je suis aussi un père, mais je suis quand même dans la... Et je lui dis quand même, Seigneur, si un jour ma fille, enfin, j'espère qu'elle se mariera, ça c'est clair, mais vraiment, Seigneur, je prie depuis longtemps, je dis, Seigneur, je ne supplie pas un gars, vraiment pas un gars de rien, quoi. Et je pense que Caleb, il a exactement cette attitude-là. À un moment donné, il parlera, il dit voilà, on est dans la conquête, il y a une ville là-haut qui prendra Kiryat Sefer. Celui qui prendra Kiryat Sefer, je donnerai ma fille Aksa. Alors quand j'étais plus jeune, pour m'embêter, je dis j'ai gonflé, lui. Il fiche sa fille en trophée au gars qui va prendre la ville. Quoi. Ça, c'est ma première lecture. Puis en deuxième lecture, je me suis dit. Il est tellement la barre haut qu'il veut trouver quelqu'un qui est capable de se battre, quelqu'un qui est capable de manifester du courage, quelqu'un qui relève des défis, quelqu'un qui veut aller de l'avant, qui est prêt à payer le prix, qui est prêt à se donner pour. Et on s'est le temps de voir aussi avec Seb, qui est se battre pour vraiment aller jusqu'au bout pour cette femme. Quoi. Et quand un garçon arrive, il prend derrière ses frères, il le donne pour qu'il lui dise il a fait le meilleur choix possible. Et je crois qu'on doit avoir une dimension comme ça, de dire à un moment donné, qu'est-ce qui t'anime dans ton cœur, quelle vision tu as, où est-ce que tu es dans tes relations. et il donnera une meilleure attaque. Non seulement il donnera des sources d'eau bas, mais il donnera des sources d'eau bas. Quel est son nom qui est né d'un télescope qui sait qu'il y a des choses qui se passent avec Dieu et qu'il faut qu'on soit le prier auprès de Dieu, qu'il faut prendre le temps. Ça prend du temps. Mais vous savez, il y a des choses pour nos familles, pour nos enfants. Il y a un moment donné, ça ne se traite pas au claquement des doigts. Ça nous dégage capable de se mettre à genoux, d'aller vivre, de se mettre devant Dieu, de répandre leur cœur, de dire Seigneur pour ma maison, pour ma famille, pour ceux qui vont être là, Seigneur, que nous vivions, que nous avons grâce, des hommes qui vont payer le prix en se mettant par terre, en pleurant, en répandant leur cœur. Vous êtes OK ou pas?
Vraiment, j'ai l'impression que.
Et là, quand vous avez un gars comme ça, non seulement il vous inspire, il vous fait du bien, mais quand on est à côté, on reconnaît cet homme qui est là, il a tout donné, là. On a envie d'être avec lui, on a envie de vivre les choses. Amen.
Et moi, je crois qu'on a vraiment besoin d'avoir des gens qui sont amenés de cet autre esprit,
dans lequel Dieu dit non seulement il est amené d'un autre esprit, mais lui, c'est mon serviteur. Je vois des gens qui vivent leur vie, même dans notre foi, on vit notre vie que pour nous, par rapport à ce qu'on retire de Dieu. Seigneur, bénis-moi, Seigneur du bien, Seigneur, enlève les problèmes, Seigneur, guéris, Seigneur, donne, il y en a des comme ça, non, on est mort. Et c'est autre chose, à un moment donné, d'être conscient de ce que Dieu a fait, de la grandeur de l'éternel, de voir aujourd'hui le défi qu'il y a dans les vies, et de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et amener d'un autre esprit d'être capable de penser. Il y a des gens, si vous n'aidez pas leur demander quelque chose, ils ne vous aideront jamais. Je ne sais pas si je dois me lâcher un peu. Qui veut que je me lâche un peu? Dites-moi. Oh là là, vous êtes dur avec moi. Vous savez, des fois, vous arrivez comme ça, il y a des gens, si vous n'allez pas leur dire qu'ils vont vous donner un coup de bain, quoi, ils ne vous l'auront jamais, quoi. Il y a des spécialistes pour débarrasser, pour dire « Ah, j'ai un truc à faire. » Hop là. Ah, il y en a qui connaissent, là, j'ai l'impression. Hein. C'est toujours le moment de la moitié de mes ados, quand je fais des colos et des colons. On est à la fin, c'est une tournante, que certains participent et tout ça, donc on fait la liste. Donc les trois premiers, c'est pour Colbeck, hop, puis on les appelle et puis ils disent « Ah, pourquoi pas ?» C'est vraiment le truc que je sens le... Mais t'inquiète pas, tout le monde va y passer, c'est pas le seul, mais nous on va faire avec lui. Ah, pourquoi moi? Et on sent des fois dans ces moments-là, il y a un autre esprit qui vient. Excusez-moi, c'est souvent d'avoir plus souvent les filles qui sont comme ça, qui spontanément vont venir, vont aider, vont. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je t'aide, il y a un truc à faire. Puis quand tu sais toujours le petit truc, des fois j'aimerais bien que tu aies bien venu d'un autre esprit. Ah là, il y a des messages qui passent. Hein. Mais au-delà de la petite blague, au-delà de la blague, vous savez, Dieu pèse les cœurs. Et quand Dieu voit qu'il aime, il voit un homme animé d'un autre esprit. Et à cause de cette mentalité qui plaît à Dieu, à cause de ce zèle qui plaît à Dieu, Dieu va faire rentrer dans des choses où les autres ne rentreront pas. Et donc, par contre, ça nous renvoie notre responsabilité de tout ce que je veux vivre avec Dieu. Est-ce que je me donne les moyens de vivre les choses avec Dieu? Et là, dans ce cas, je me dis, pourquoi? Il y a une histoire comme ça, il vient voir. On est dans une grande église, elle me dit, Patrick, pourquoi c'est toujours les mêmes qui prophétisent?
Ah, bah dis donc, alors moi, c'est... Alors, bah, je lui dis, bah, si tu prophétisais un peu plus, les autres prophétiseraient un peu moins.
Et si tu passais peut-être un peu plus de temps à chercher Dieu et à te mettre à disposition, peut-être que tu verrais les choses dans autre sens. Mais est-ce que toi, quand tu vois, est-ce que tu plaises? Je voulais vous dire ça, moi je bénis Dieu pour la musique, c'est des fois super contraignant et compliqué. Les musiciens, c'est les premiers qui arrivent à l'église, c'est bon, en tout cas, le moment, ils se donnent rendez-vous le matin. J'ai appris dans certaines églises, le rendez-vous de l'allemand, c'est 6h du matin. Et bien, venez un peu, aujourd'hui en France, hein, vous avez des églises, oh, l'allemand, c'est super, ouais, mais rendez-vous de l'allemand, 6h du matin. Il y a des volontaires. Et là, dans ce coup, il y a moins de volontaires. On veut tous être sur les strades, avoir le micro, jouer de la guitare, du piano, des vocales, on veut tous faire ça. Et combien sont prêts à payer le prix pour vivre ça? Et quand Dieu voit un autre esprit, il est capable de dire, quand vous êtes fidèles dans des petites choses, le Seigneur le dit, je prends de grandes idées, de grandes. Alors nous, on veut des grandes choses.
Mais quand il y a des petites choses, on n'est déjà pas là. Tu apprends, moi, Seigneur, quand même, donne, Seigneur, Seigneur, tu ne m'as pas entendu, Seigneur, dis-moi, si. Il y a des choses qui t'y mettent un peu, il y a des choses qui mettent au milieu de cet autre esprit. Je veux tout sur mon texte, c'est la réussite ou l'échec. Avant même le combat, avant même, j'ai mis ça pour le sport, il y a des batailles et il y a des victoires qui sont remportées avant même de se mettre dans le combat. C'est une question d'état d'esprit. Moi, je ne suis pas très sportif, je crois que ça se voit d'ailleurs. Mais quand je regarde le sport, vous regardez les coureurs, vous regardez les chevaux, vous regardez certains, vous êtes à, la course n'a pas commencé. Vous sentez rien qu'en regardant les participants qu'il y en a un qui sera dans le peloton de tête ou derrière. Et dès le début, il y a un état d'esprit qui nous fait aller en avant, il y a un état d'esprit qui nous porte vers la réussite et il y a un état d'esprit qui nous gardera toujours dans l'échec, dans la peine, dans l'erreur. Et il y a un état d'esprit qui est toujours là. Je crois qu'on a vraiment besoin d'être animé d'un autre esprit. Donc, il y a ici encore aujourd'hui, je crois qu'il y a des besoins, c'est vraiment des gens qu'on puisse transmettre un état d'esprit, qu'on voit un accent qui monte vers son père. Il dit, oh, c'est bon, tu m'as donné ça. Mais c'est trop sec, il faut que tu ajoutes quelque chose de sa situation qu'il peut demander à son père. Je vais avoir, il dit, donne-moi encore. Et j'ai l'impression qu'il a su transmettre à sa fille des choses qui sont tellement fortes, tellement belles, tellement bonnes. Je vous dis, enfants, peut-être qu'il y a un témoignage très personnel de moi, mes enfants, qui soient bouchés, maçonnés, soient médecins, avocats, parce que je m'en fiche complètement, ce n'est pas du tout ma préoccupation. Ma préoccupation, c'est de savoir est-ce qu'il sera bien dans sa tête, bien dans ses baskets, est-ce qu'il sera bien dans son cœur, est-ce qu'il sera bien dans sa famille. Et par-dessus tout, la seule chose, la principale que je demande à Dieu, qu'il connaisse l'éternel et qu'il serve Dieu. Moi, mon fils, il finit ce médecin dans lequel je dis franchement, ce n'est pas du tout ma préoccupation. Ma préoccupation, c'est savoir est-ce qu'il rencontrera l'éternel? Est-ce qu'il sera signé? Est-ce que son nom sera inscrit dans le livre de vie? Est-ce qu'il sera dans l'éternité avec moi? Ou pas? Et je me dis, l'important, c'est ça. Est-ce que nous, on poursuit les vrais enjeux, les vrais buts ou pas? Et qu'est-ce qui vous anime pour le reste dans nos maisons? Les vies de couple, ça se construit pas seulement avec des idées comme ça, ça se bâtit vraiment. Qu'est-ce qu'on veut ensemble? Où est-ce qu'on veut ensemble? Qu'est-ce que c'est le projet? Je vous embête, quel projet vous avez pour votre vie spirituelle dans l'église de l'Épine? Qu'est-ce que vous vivez? Comment est-ce que vous pouvez aider? Qu'est-ce que je peux faire, Seigneur, que nous sommes dans l'église qui va être pour toi une dimension où, Seigneur, tu vas te servir de moi, où tu vas bénir? Dans quel endroit il y a des besoins, Seigneur, de nos mains pour en servir? Dans quel endroit je peux faire le mettre au service pour que non seulement tu me bénisses, mais tu fasses de moi une source de bénédiction? Par contre, un petit témoignage, on était dans une église parisienne. Il y a des gens, ils râlaient tout le temps. Il n'y en a pas ici, je pense que c'est très parisien, ça. On aime la critique à Paris, donc c'est tout comme ça. Et puis, des gens qui étaient toujours bienvenus, tout le monde machin, et les missionnaires. Il arrive toujours en retard avec ses enfants. Toujours en retard, tous les dimanches matin, 10h20, 10h25, il arrive. Et je vois encore ces gens du matin qui sont là. Qui disent. Bon, mais on n'a pas de sûr. Et donc, je me flotte à la fin, et puis je leur dis, tu sais pourquoi il arrive en retard, la fin? Puis je me dis, quand même, quand on vient à l'église, il faut quand même.
Je sais pourquoi
il arrive en retard, la fin. Doué habite là-bas, là, pour venir le dimanche matin au culte. Elle lève les enfants à 6h30. Parce qu'il faut qu'elle prenne le premier RER près de chez elle à 8h15. Puis quand elle prend le RER, elle descend à la gare. Et elle attend 20 minutes. Elle prend une correspondance qui l'emmène dans l'autre Saint-Germain-en-Laye. Puis après, elle prend le bus qui descend, qui traverse la ville, qui arrive au pied de la colline de l'église. Puis quand elle est là, elle tape toute la montée à pied et elle arrive à 10h25. Et je lui dis, si toi tu pleurais 10 minutes plus tôt, tu lui éviterais de faire 1h30 de transport tous les dimanches matin. Alors je lui rends mon état, tac. J'étais content, je m'en vais quand même. Et je l'envoie avec ça, et je lui dis, si toi tu faisais le petit plus, tu viendrais quand même drôlement, quoi. Toi qui es tout le temps en train de râler matin, bah, comprends de quel enjeu ça se passe. Et donc, les gens qui sont faits comme ça, ils vont être un peu plus clairs, donc ils vont voir, si tu veux, ils vont se trancher dans le même quartier. Et là où c'est la crème de la crème, c'est que la sœur en question, c'est une femme de prière, elle est Dieu. Alors quand les gens qui sont un peu moumou quand même, hein, vont aller chercher la sœur qui est brûlante, et bien la voiture s'est retrouvée en réunion prière du dimanche matin, avec la louange, avec la prière, avec tout ça, et d'un seul coup, ça a transformé des gens qui étaient moyens, mou, froid, en des gens qui étaient plein de zèle, plein de foi. Parce que la sœur, un autre état d'esprit dans leur tête. Et non seulement ils allaient faire chercher les sœurs, mais comme ils avaient deux voitures, ils m'ont dit qu'il y a d'autres personnes qui peuvent aller chercher pour aider le dimanche matin. Et bien oui, il y a des choses comme ça qui peuvent être animées d'un autre état d'esprit. Au lieu de regarder la montre, de dire pourquoi t'es en retard, le mieux ce serait peut-être d'aller voir les gens pour dire disons, dans quel quartier t'habites, j'ai vu que là, est-ce que je peux t'aider, peut-être que je peux faire un détour qui me prend 5 minutes, mais je vais faire du bien. Et toi, tu vas me faire du bien. Et ça aussi, c'est une question de quel état d'esprit vous avez. Il a pleinement suivi Marie. Vous savez que sept fois, Dieu dit sept fois concernant Caleb, mon serviteur Caleb a pleinement suivi ma voix, il est animé d'un autre esprit. C'est un homme qui, dans toutes ses sociétés, c'est celui qui avance quand les autres reculent. Il y a un état d'esprit, quand vous êtes pris comme ça, quand tout le monde arrête, vous continuez. Acadès, il prend position pour Dieu. C'est celui qui persévère quand tous les autres tombent. C'est celui qui avance. C'est aussi celui qui achète quand les autres réussissent. C'est pas le tout de commencer, il faut finir avec foi, il faut finir avec zèle, il faut finir avec une bonne mentalité. Si dans une église, des souvenirs de mecs peut-être comme ça, on voit des ouvriers qui prennent de l'âge et au bout d'un moment, on se fout un peu, on dit, ah, t'as pas connu l'église, c'était la grande époque. Mais bon, aujourd'hui, c'est dans l'année 2018, moi j'ai découvert la foi, j'avais 26 ans. Il y a des gens qui sont autour de nous, qui sont là, qui veulent vivre des choses. Et je me dis, qu'est-ce qu'on inspire à la génération qui a précisément les cheveux blancs, qui a plus de 50 ans, c'est à vous que je parle. Qu'est-ce que vous inspirez après 30 ans ou 20 ans de vie chrétienne? Il y a des gens au bout de 20 ans de vie chrétienne qui sont nulle part. On ne prie pas, on ne lit pas. Ça fait des années qu'on ne vous a pas entendu élever la voix au milieu du peuple, faire du bien, bénir.
Moi, tu m'embêtes avec ta phrase de tout à l'heure.
Qu'est-ce que j'inspire aux autres qui sont à côté? Quand les gens me voient, est-ce que ça les pousse à aller de l'avant? Est-ce que ça leur dit? Moi, il y a des aînés. Cette année, on a enterré malheureusement plus de frères de grande qualité. Et quand je vous voyais, je disais toujours à Dieu, je dis Seigneur, quand je finirai. Je voulais tellement être comme lui. Donc, qu'ils étaient dans leur foi de la loi, c'était le paquet discret. Il allait voir tous les jeunes, comment tu vas, il encourageait, il conseillait, il relevait. Il était toujours avec une parole fraîche d'inspiration qui était là quand on le voyait. Tout le monde allait lui dire bonjour, c'est quand on venait, dit comment ça va, papy. Et on lui faisait du bien, et c'est lui qui nous faisait du bien, on avait tellement besoin de ça. Et d'un seul coup, le Seigneur, il vous inspire. Est-ce que moi je suis animé de cet esprit qui inspire ceux qui sont à côté ou pas? Si vous suivez vous, excusez-moi de le dire comme ça, si vous n'avez pas dans votre entourage 5 ou 6 jeunes que vous allez prendre soin en allant les voir, je prie pour toi, comment t'as passé ta semaine, comment c'est dans tes études, pour les jeunes couples qui veulent de l'aide, est-ce que je peux t'aider, comment je peux faire, je prie pour toi, vous avez un problème. Parce que vous avez un témoin dans la main, je ne sais pas ce que vous allez en faire. Et à qui vous allez transmettre ces choses. Il y a une amie qui malheureusement est décédée chez nous à Blois. Elle dit, moi je ne peux pas toujours faire une chose, qu'est-ce que je peux faire, c'était son fardeau. Et je lui dis, ma amie, enfin, ça peut me manquer, je dis, Monica, occupe-toi des ados. Alors, je dis, Blois, on va m'occuper des ados, je dis, comment pas pour m'occuper ce monde de savoir comment aller. Et Monica, elle s'est approchée de tous les ados de l'église. Et quand j'avais besoin de savoir comment ça se passait, j'allais voir Monica, je lui dis comment ils vont les ados. Vous savez quoi? Et ça vient. Les jeunes, les filles, les garçons, comment tu vas? Il y avait toujours un truc qu'au bout d'un moment, les ados, ils acquittaient trop leur ami. Parce que quand ils arrivent à l'église, il y a quelqu'un qui vient leur dire comment tu vas, la petite famille, t'as passé une bonne semaine. Et les ados, ils s'inquiétaient avec elle. Mais elle n'avait pas pensé à ça. Et Monica, elle a transmis aux ados l'importance de la parole et de la foi. Elle a transmis aux ados, juste comme ça, transmis aux plus jeunes, l'importance que c'était de prier les uns pour les autres. Elle a fait du bien. Elle n'était pas sur sur un service, elle n'était pas marquée sur un tableau thermique. Hein. Mais quand j'avais besoin de savoir comment aller une maison, j'avais qu'une seule personne à m'interroger, c'était elle. Elle était animée d'un autre esprit. Et ça, je crois que ça doit nous inspirer encore aujourd'hui. J'ai vu un homme de foi, un homme qui est proche de Dieu, qui est dans la communion, orienté par son cœur, mais d'ailleurs, la preuve, c'est que la Bible dit, Jésus, Dieu le dit, il a pleinement suivi ma voie. Vous ne pouvez pas suivre la voie de Dieu si vous êtes inspiré par Dieu. Et je crois que nous, aujourd'hui, on a vraiment besoin d'avoir cette foi, cette ténacité, cette persévérance dans la course, pour être dans la course, frères et sœurs. Il y a toujours quelque chose à faire dans votre entourage ou autour de votre main. La différence, ça sera quel esprit tu es. Est-ce que tu es devenu un consommateur de la foi ou est-ce que tu restes dans la course et qu'encore aujourd'hui, tu peux parler avec courage et puis vraiment dire à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je crois qu'aujourd'hui, encore, il y a des choses qu'on peut cultiver dans la présence de Dieu, que Dieu nous appelle vraiment à nous approcher de lui. Il y a cette disposition de cœur qui est là, excusez-moi, mais avec le temps, moi, je vois l'importance dans toutes les églises que je visite. Et des sœurs qui écoutent moi, excusez-moi les mots, ils ont du miaque, ils ont du zèle, ils ont du feu. Quand il y a un truc qui vous encourage, il vous rêve. Et du coup, en même temps, excusez-moi, vous n'avez pas été voir vos pasteurs. Et merci, merci Michel, merci PS, merci RP, merci pour tout ce que vous faites, merci pour votre engagement, merci pour toutes les actions, merci pour tout ce que vous portez. Et du coup, en même temps, vous n'avez pas été les voir. Seigneur, merci parce que la nouvelle, tu as besoin de moi, qu'est-ce que je peux faire, est-ce que tu as besoin d'aide, est-ce qu'il y a quelque chose peut-être à porter, il y a des cellules de maison. Plus longtemps que vous allez peut-être visiter une cellule de maison pour voir, moi je vais emmener ma prière, je ne vais pas venir les mains vides devant Dieu, je vais venir avec un cœur plein pour voir les gens, tu n'as pas l'air en forme, viens avec moi, qu'est-ce que tu fais, je veux voir, il y a la cellule de maison, viens avec moi, on va y aller ensemble, puis je vais te porter, puis je vais prier pour toi.
Amen, là, c'est bon, je...
Où est-ce que je vous ai perdu? Je vais revenir en arrière. Et vous comprenez qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment un état. Je vais vous faire mon truc. Je me suis interpellé dans ma vie personnelle. De manière très honnête, je vais vous dire qu'au démarrage de ma vie spirituelle, j'ai bien purifié les choses pour recevoir de la reconnaissance. Que je vais faire des choses pour plaire à Dieu et m'occuper de ce que Dieu pensait de mon service. Et quand je me suis interpellé, je me suis dit franchement qu'à un moment donné, c'était pas glorieux. Je crois qu'on n'a pas besoin d'impressionner personne, on n'est pas là pour ça. On est là vraiment pour vivre les choses. Il y a une chose, je vais terminer avec ça, il y a une chose que Dieu voit aujourd'hui. C'est quel esprit t'anime aujourd'hui quand tu fais les choses avec Dieu. Et ceux qui aujourd'hui voient l'avenir avec espérance, peut-être. En voyant les défis, puis disant que je vais y arriver, est-ce que j'ai une place dans tout ça? Et on se demande si on va à nous faire partie de l'équation et dire est-ce que Seigneur, est-ce que ce que je fais aujourd'hui, ça va être utile, je vais m'interroger. Il y a ceux qui disent moi, j'ai fait ça toute ma vie, je suis comme ça, je suis fidèle, tu as vu le fils célébré, hein, de la parabole du fils prodigue. D'ailleurs, on devrait appeler ça la parabole des deux fils plutôt, parce que les deux, ils avaient un problème. Le fils est né, moi j'ai tout fait, tout est nickel, t'as vu machin, mais il est plus capable de se réunir. Quel esprit nous avons? Quelle mentalité manique? Qu'est-ce qui nous motive aujourd'hui dans la vie avec Dieu? Est-ce que vous avez l'état d'esprit qui plaît à Dieu? Alors le Seigneur est mon serviteur. Et tu vas rentrer non seulement toi, mais à cause de ton état d'esprit, toi tu vas rentrer, mais tu vas emmener tous ceux qui sont à côté de toi, non seulement toi, mais cette descendance qui viendra aussi. À prendre possession. Je vous pique un petit peu. Combien d'entre nous, vous avez envie non seulement de rentrer, mais de voir ceux qui vous entourent, votre maison, et ceux qui sont autour de vous, ces amis qui vous sont faire de la famille, peut-être des gens qui sont là du Seigneur. Ben, je veux que vous aussi les y rentrent. Il y a combien de personnes qui disent Seigneur, je veux vraiment qu'ils vous rentrent aussi avec moi. C'est le petit clic qui est là, la petite clic qui est là. C'est ton état d'esprit d'aujourd'hui. C'est ton esprit t'anime aujourd'hui. Les apôtres. Ils étaient dans une ville avec Jésus. On n'était pas loin de la Samarie, puis la Samarie ne reçoit pas Jésus. Super inspiré, le gars. Seigneur, recommandé au fond du ciel de descendre. Hein. Ah, les mécréants qui ne veulent pas te recevoir, on va demander au fond du ciel de descendre. Et Jésus se retourne, c'est lui qui le met. juste retour dans l'univers, vous ne savez pas quel esprit vous avez. Ce n'est pas avec ça que tu vas faire l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas avec ta mentalité qui va faire les œuvres de Dieu. Ce n'est pas avec ces pensées-là qui va permettre au royaume d'avancer. Et je crois qu'on a besoin d'avoir l'état d'esprit du royaume. On a besoin d'être animé dans notre cœur par les pensées de Dieu et par le cœur de Dieu. Amen. On peut prier tous ensemble, si vous voulez bien ce matin. Merci pour l'exemple de ces hommes, Seigneur, qui nous inspirent aujourd'hui, qui doivent encore nous inspirer. Merci, Seigneur, parce que c'est vrai que ton sacrifice a été total, complet. Même toi qui dis qu'on doit être tes imitateurs, même l'apôtre Paul pouvait dire que nous les imitateurs, comme je suis moi-même de Christ. Le modèle qui doit nous inspirer, c'est le modèle du Christ. Le seul modèle qui est digne de reconnaître, c'est le modèle du Christ, mais Dieu ne s'est pas trompé. En disant aussi, imitez leur foi, regardez les saints de ces hommes, imitez leur foi. Parce que Paul parle avec Timothée, qui achève la course, et lui donne le secret, il dit, Timothée, il y a quelque chose que tu dois garder, souviens-toi toujours, Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Mais j'ai fini parce que j'ai gardé la foi. Mon frère, ma soeur, j'espère que tu gardes la foi dans ton cœur. Dans mon âme, dans mon cœur, dans ma prière, j'espère qu'aujourd'hui, ce qui t'anime, c'est t'accrocher à ta foi, t'accrocher à Jésus, au salut de Dieu, t'accrocher à toutes ces choses qui te font traverser les tempêtes, qui te donnent d'aller de l'avant par l'esprit. Je vais lancer un appel ce matin. Est-ce que tu as besoin de développer l'état d'esprit, la mentalité, l'état d'esprit de Caleb? Est-ce que tu as besoin ce matin d'être animé dans notre esprit? Est-ce que ce matin, au travers de cette parole qui a été partagée, tu dis dans ton cœur, j'espère que je suis animé du bon esprit pour faire la volonté de Dieu? Si ce matin, il y a des gens qui peut-être en une seule prière, si ce matin, il y a des gens qui veulent demander à Dieu de dire, Seigneur, je voudrais vraiment que tu puisses avoir cette parole, j'espère que je suis animé du bon esprit. Sois de moi, Dieu, connais mon cœur. Seigneur, si je me suis trompé, conduis-moi sur le chemin de l'éternité. Est-ce qu'il y a des gens qui se mettent en train de mettre cet état d'esprit de Caleb? Vous voulez bien vous lever à votre place, il y aura une seule prière ce matin. Pour tous ceux qui ce matin comprennent l'importance d'être animé avec l'état d'esprit qui plaît à Dieu, un état d'esprit de foi, de courage, un état d'esprit qui puise auprès du sanctuaire de Dieu, les éléments de la réflexion, qui regardent les choses avec une bonne vision, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Qui ne se trompent pas de combat. On n'a pas à combattre contre la chair et le sang, on a à combattre contre les autorités, les doctrines de démons. On a à combattre les choses célestes et spirituelles. Je vais être animé du bon esprit, Seigneur. La prière, Seigneur, c'est pour tous ceux qui se lèvent ce matin. Avec les yeux fermés, la confession est entre vous et Dieu. Mais je suis persuadé que Dieu veut animer en nous un état d'esprit, une mentalité, une motivation, un zèle, quelque chose en nous qui brûle. Ce Seigneur vient ajouter, c'est un feu nouveau dans ton cœur. Un état d'esprit. Tous ceux qui s'emparent des promesses, qui vivent le royaume, Seigneur, comme Josué et Caleb, la prière, Seigneur, c'est que ce matin, dans le renouvellement spirituel. Seigneur, renouvelle l'intelligence de ceux qui se sont levés ce matin, afin qu'ils comprennent et qu'ils discernent ce qui est bon, agréable et parfait. Seigneur, qu'on veut te donner ce matin, c'est vraiment un culte qui t'est agréable. Le fruit de l'air qui confesse le nom de Jésus, on fait de ma foi que ce n'est pas contre eux, ce n'est pas contre Dieu, contre d'autres créateurs qu'on a à combattre. Ce qu'on doit combattre, c'est le plan de Dieu. Chercher la vision de Dieu, chercher à faire la volonté, marche avec Dieu, mon frère, ma soeur, marche avec Dieu. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Renouvelle cet état d'esprit au milieu de nous. Anime-nous de ton bon esprit, Seigneur. Alléluia, secourez-nous, secourez-nous, à la clarté de la bénédiction, la bénédiction. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On vous donnera un dernier verset qui, je crois, va vraiment dans cette dimension qui est là. C'est un texte qu'on trouve avec Job.
Je disais tout à l'heure, il a pleinement suivi ma voix. C'est une référence aussi à notre texte quand Jésus peut dire tout est accompli, il y a quelque chose en nous qui est arrivé à un état d'esprit. Et la phrase est dite ceci, cet homme qui se lève devant Dieu, dit l'Éternel m'a fait vivre. J'ai beaucoup aimé les gens qui nous conduisent vraiment à proclamer, à nous connecter avec Dieu. Si vous pouvez retenir ce verset, c'est Josué 14:10, de pouvoir dire à un moment donné, l'Éternel m'a fait vivre. Ma vie, elle est cachée en Christ. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi il y a besoin de cet esprit qui est là, qui m'anime. Et je pense que bien, je me rappelle juste peut-être ces trois points qui m'ont vraiment interpellé quand je vous ai parlé. À cause de l'état d'esprit, avancer contre les autres reculs. C'est quand vous voyez tout le monde qui se retire et puis d'un seul coup, je n'ai pas d'être entêté. C'est à cause de la foi, à cause de tout ce qui est en vie, les cadres de Josué sont ceux qui sont pour avancer contre les autres reculs. Ils ont persévéré contre les autres tombes et ils ont achevé quand tout le monde fléchit. Et ça, mon serviteur est animé d'un autre esprit. Amen. Je vous bénisse.